Le live BFM, il est 11h. Dans 24 heures, le discours de politique générale d'Edouard Philippe. Inflexion ou accélération, changement de cap ou simplement changement de méthode. Pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est le Premier ministre qui va lancer l'acte 2 du quinquennat.
Un discours avec...
C'est vrai qu'on accuse beaucoup, et notamment dans les rangs de la gauche, le gouvernement actuel d'être un gouvernement de droite. Il doit donner des gages à son côté gauche. Est-ce qu'il va annoncer le grand soir, Edouard Philippe, demain?
Alors ça, moi, j'y crois pas une seconde. Non, évidemment, on va avoir droit à un discours, des mots qui seront décryptés. Alors ça va faire peut-être couler de l'encre dans les médias, enfin dans la presse. Je veux bien le croire. Mais non, là, il y a des réponses concrètes que le gouvernement doit apporter sur le problème, par exemple, des urgences, des hôpitaux, des EHPAD, le problème qui a été posé quand même dans le mouvement des Gilets jaunes, le problème des bas salaires. Et on sait, le gouvernement l'a dit, Emmanuel Macron l'a réaffirmé, qu'il allait continuer sur son cap. Ou alors économie sur les chômeurs, allongement du temps de travail, il va falloir qu'on travaille jusqu'à 64 ans, si j'ai bien compris les fuites, 64 ans pour espérer toucher une retraite à peu près complète. Donc voilà, les coûts vont continuer de tomber et je crois que personne n'est dupe, en tout cas dans le monde du travail. Donc on a bien sûr qu'il n'y a rien à attendre de ces grands discours. Moi je suis frappée sur ce qui se passe par exemple, aujourd'hui, oui, avec cette grève dans les hôpitaux. Je suis frappée parce que là, on a un gouvernement qui n'apporte aucune réponse, qui nous explique que ça fait des années et des années que ça dure, mais qui, en même temps, continue de demander encore des sacrifices, de demander encore des économies. Et voilà, c'est toute la politique de ce gouvernement, parce que précisément, l'argent, il ne le réserve qu'à ceux qui en ont déjà beaucoup. C'est effectivement la suppression de l'ISF, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, enfin les 40 milliards qui ont été donnés aux grandes entreprises, c'est sa politique en faveur du grand patronat. Donc le monde du travail, en tout cas, n'a rien à en attendre, c'est évident.
Ces critiques, on les entend.
Dubitatif.
Nathalie Arthaud, vous mettiez tout à l'heure sur la table la question de ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux. Parce que parfois on parle de fin du mois, fin du monde, là c'est carrément fin de la semaine, il faut des mesures d'urgence.
Oui, justement, moi ce qui m'a frappé dernièrement, c'est cette capacité que le gouvernement a eue d'appeler à la mobilisation pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est quand même assez intéressant de comparer justement comment là on peut sonner la mobilisation générale, mettre en place un dispositif pour rapidement prendre des décisions, pour que ça se rebâtisse, pour qu'on rénove, etc. Hein, mais alors, sur les urgences, sur les hôpitaux, sur les EHPAD, sur la justice, parce que ça craque aussi sur la justice, rien. Des beaux discours,
des
mots creux. C'est ça qui est frappant. C'est comment on peut mobiliser un milliard, plusieurs. Alors, avec, évidemment, toutes ces grandes familles bourgeoises qui ont mis effectivement qui ont abondé, oui. Qui ont trouvé 100 millions,
200
millions, voilà, une générosité incroyable, voilà. Et donc on est sur un milliard.
Vous en appelez à l'État ou à M. Pinault pour sauver l'hôpital?
Moi je pense que l'État, effectivement, il pourrait demander à ces grandes familles bourgeoises, il pourrait demander à ces grands groupes qui sont assis sur des montagnes d'or, qui font de l'argent, il pourrait leur demander un certain nombre de choses, évidemment. Parce que, y compris ces grands groupes, ils sont responsables. Hein, à force de vouloir plus rien payer, plus payer de cotisations, plus payer pas augmenter les salaires, eh bien on en est réduit à une société où effectivement ça craque de tous les côtés. Parce que y compris si la Sécu retombe dans le rouge, j'ai quand même cru comprendre que c'était en partie du fait des diminutions, des cotisations, de ces cadeaux qui avaient été faits sur les heures supplémentaires par exemple. Donc vous voyez, oui, le gouvernement, s'il était...
Non mais c'est intéressant, Bobby Joss. Vous pensez que c'est le privé qui doit financer les services publics?
Mais je pense que le gouvernement...
Dans votre idéologie, c'est assez nouveau.
Excusez-moi, mais ceux qui financent le service public, c'est bien sûr... Le privé, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi, ce sont les grandes entreprises, c'est les femmes et les hommes de ce pays.
Je pense
qu'il faudrait leur faire payer plus d'impôts.
Je pense qu'il faudrait effectivement
leur demander de payer des salaires corrects à tous ceux qui les font prospérer, c'est-à-dire à leurs salariés. Je pense qu'ils devraient payer pour la santé, je pense qu'ils devraient payer pour la retraite, bien beaucoup plus que ce qui se fait aujourd'hui. Précisément, le gouvernement est en train de reculer sur tout ça, il faut rien demander aux plus riches, rien demander à ces grands groupes qui sont encore une fois assis sur des milliards. Prenez PSA. PSA, c'est 2,5 milliards de bénéfices, là. Ils ferment des entreprises, vous trouvez ça normal? Ils ferment leur usine à Saint-Ouen, à Hermonville. C'est pas normal. Donc, ils suppriment des emplois. Et en plus, ils demandent toujours des aides de l'État. C'est cet argent-là qui manque précisément pour les hôpitaux, pour les écoles, pour la justice, pour les services publics indispensables à la population.
Jean-François Cesarini, tous les ministères. C'est étonnant comme cette question de l'hôpital semble cristalliser beaucoup de choses en ce moment, Nathalie Arthaud.
Oui, parce que là, c'est très visible. C'est visible. Il manque effectivement des effectifs, il manque des moyens.
C'est parce qu'on attend tous des heures quand on va aux urgences.
Mais bien sûr, et tout le monde le sent. Et en plus, on y est obligé, parce que quand j'entends cette... cette accusation qui est portée à ceux qui doivent aller à l'hôpital pour une entorse, pour effectivement, pas forcément une maladie très grave, mais enfin, voilà, pour une entorse, parce qu'ils souffrent et parce qu'ils sont en droit d'être soignés.
Hein. Oui, parce que le généraliste est trop loin.
Et parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est le week-end, parce que c'est 18h, enfin, parce que c'est 19h,
c'est aussi parce qu'on a allégé le processus des gardes sur les médecins de ville, que Chirac, en 2002, a laissé les médecins de ville abandonner ce service public aussi, qui était la garde des médecins.
Donc, il faut y aller. Hein, donc il y a cette culpabilisation qui est insupportable cet obstacle auquel on s'est tous heurtés de pas réussir à prendre des rendez-vous, de pas trouver de l'aide autrement, donc effectivement d'y aller et d'attendre 6, 7, 8 heures, 10 heures et de réaliser cette grande détresse, cette grande misère des hôpitaux. Donc c'est quelque chose qui touche parce qu'effectivement on voit à la fois, bon, on subit tous et puis on voit très bien que à la fois le personnel est dévoué, essaye de faire pour le mieux, mais est complètement dépassé par la situation. Donc moi je comprends effectivement ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. C'est un électrochoc en réalité. C'est un électrochoc. Ça fait des années qu'ils poussent des cris des appels. Et là, ils veulent un électrochoc. Donc, ce mouvement, j'espère qu'il sera, qu'il va se renforcer et qu'effectivement, il va tordre le bras à ce gouvernement qui ne veut pas mettre les moyens sur la table. Il ne le veut pas parce que les revendications, elles sont quand même très claires, là. Hein. Vous ne pouvez pas dire, oh, mais on ne sait pas ce qu'ils demandent. Hein. Ils demandent 10 000 aides-soignantes, infirmières, soignants supplémentaires. Et puis, ils demandent aussi des augmentations de salaire. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Moi, j'étais frappée de voir comment l'État a su, effectivement, à construire des beaux hôpitaux. Alors ça a été une concentration dans des immenses pôles hospitaliers, souvent des partenariats publics-privés où les constructeurs...
c'est pas la majorité actuelle. Hein,
on est dans la continuité. Donc là, il y a eu de l'argent pour ça, hein, pour effectivement faire prospérer les promoteurs immobiliers, etc. Mais il n'y a pas le personnel à l'intérieur. Il n'y a pas le personnel. Donc moi, j'espère qu'effectivement, ils tordront le bras encore une fois à ce gouvernement pour qu'il lâche l'argent. Voilà. Et l'argent, il y en a dans la société. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y en a beaucoup dans cette société. Il est un pôle de la société, cet argent. Eh bien, il faut aller le chercher. Mais moi, je compte absolument pas sur la bonne volonté du gouvernement pour le faire. Je compte sur la pression populaire qui les forcera à aller chercher cet argent.
Jean-François Cesarini, à la suite.
Emploi. Notamment.
Alors justement, vous parlez d'emploi, Nathalie Arthaud, on nous parle de croissance verte depuis longtemps, on nous dit, vous allez voir, avec le développement, la transition écologique, on va créer des centaines de milliers d'emplois en France, sauf que on a l'impression, alors c'est peut-être une fausse impression, mais depuis des mois, que c'est plutôt l'inverse. Et que, par exemple, quand on dit qu'on met moins dans les énergies fossiles, les turbines à gaz de General Electric ne se vendent plus, et que du coup on doit fermer des sites à Belfort. Est-ce que l'écologie peut vraiment créer de l'emploi à court terme ?
Moi, je pense pas que ce soit l'écologie qui soit l'ennemi de l'emploi, pas du tout. Non, c'est cette recherche de profit, de rentabilité, cette rapacité capitaliste qui est l'ennemi de l'emploi. C'est ça, la réalité. Et c'est le fait aussi qu'il n'y a pas d'investissement aujourd'hui dans notre société. Pas d'investissement parce qu'il n'y a pas d'investisseurs, parce que tous ceux qui ont effectivement des milliards et des milliards, ils préfèrent aller les spéculer en bourse, ça ne les intéresse pas d'investir pour produire des choses utiles et ça ne les intéresse pas d'investir dans l'écologie. Hein, ils font bien plus d'argent dans la finance, c'est ça la réalité. Donc on voit qu'y compris il y a des entreprises qui ferment, Ford, Ascoval, qui intéressent très peu ces gens-là. Voilà, ça peut fermer, y compris General Electric, parce que bon, on peut peut-être arrêter, peut-être que les turbines à gaz, c'est fini, j'en sais rien, je suis pas sûre. Cette usine-là, elle peut aussi fabriquer un tas d'autres choses. Hein. Donc le problème, c'est que les travailleurs, ils n'ont pas la main là-dessus. Hein, c'est ceux qui, effectivement, organisent l'économie, c'est ceux qui ont l'argent, qui décident. Voilà, et qui imposent effectivement leur vision. Et leur vision, de toute façon, la vision, c'est leur cours boursier, c'est leur portefeuille. Elle s'arrête là, leur vision. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y aura un tas de choses à faire. Mais tant que on est dépendant effectivement des calculs de quelques-uns qui sont uniquement basés sur le profit, sur le marché, la concurrence, etc., il n'y aura pas d'écologie et il n'y aura pas d'emploi. C'est ça la réalité. Donc moi, juste une petite chose aussi. Je ne doute pas que Édouard Philippe va faire un beau discours sur l'écologie demain. Alors ça, ils sont pour les beaux discours sur l'écologie, mais ils sont très forts. Puis ils ont des gens qui écrivent bien, hein, des voilà. Des,
Make our planet great again.
Mais bien sûr. Hein, et moi, j'étais très frappée par cette grande phrase de Macron qui avait été applaudie par tout le monde parce qu'en même temps, il remettait des bus sur les routes. En même temps, il remettait des bus sur les routes, c'était un truc incroyable. En même temps, il continuait de fermer des gares. Aujourd'hui, je rappelle que la ligne Perpignan-Rungis, qui permet effectivement d'approvisionner donc Rungis et qui remplace quoi 40 camions, est menacée. Et il faut des femmes et des hommes qui se battent, qui se mobilisent pour dire il faut sûrement pas faire ça. Donc voilà, moi, c'est très clair, il y a un manque de volonté du gouvernement, parce qu'encore une fois, il veut rien faire qui contraindrait les grands groupes.
Il faut un peu plus de dirigisme, alors.
Il veut rien faire de tout ça, et lui-même, il est pris aussi, d'ailleurs, il est pris dans cette logique de rentabilité, toujours de profit.
Jean-Laurent Lincapel, écologie.
Édouard Philippe en grand champion de l'écologie à la française, Nathalie Arthaud, ça vous inspire quoi ?
Non mais on n'y croit pas une seconde, hein, franchement. Voilà. Et puis c'est vrai que la question de l'écologie, de la transition écologique, c'est la question de l'organisation de notre économie. Qu'est-ce qu'on produit ? Pour qui ? Comment ? Avec quels moyens ? Avec quelles ressources ? Donc effectivement, c'est comment, pour quel métier on se forme ? Quelles seront les filières de demain, respectueuses de l'environnement, des hommes, etc. Ce sont toutes ces questions. Bon. Mais le problème, c'est qui a la réponse ? Qui peut aujourd'hui apporter la réponse à toutes ces questions ? Ben c'est ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui sur l'économie. C'est-à-dire, c'est ceux qui la dominent, c'est ceux qui la décident, c'est ceux qui la façonnent. Ce sont ces grands groupes. Aujourd'hui, quand le gouvernement discute des pailles en plastique à PSA, il y a le conseil d'administration, il y a un certain nombre de dirigeants qui planchent déjà sur ce qu'ils vont faire dans 2 ans, dans 5 ans. C'est eux qui décident. C'est eux. C'est-à-dire des petits conseils d'administration qui travaillent au service d'une minorité, et encore une fois, pas pour l'avenir de la planète, hein, pour l'avenir de leurs bénéfices, pour l'avenir de leurs dividendes, de leurs cours boursiers. Eh bien moi, je pense que si on laisse effectivement tous ces choix fondamentaux consistant à organiser l'économie, nos modes de déplacement, nos modes de consommation à cette poignée-là, eh bien on est condamné, on n'y arrivera pas. Voilà, moi j'ai bien lu que les grandes diamantaires, par exemple, se font une pub d'enfer parce que effectivement ils recyclent l'eau de leurs mines de diamants au Botswana et en Afrique du Sud. Mais franchement, qui peut croire que ces grands groupes vont être voilà nos modèles de demain. Donc non, il y a effectivement à ce que moi c'est notre politique, le Tourière, nous sommes communistes, nous pensons qu'effectivement les travailleurs qui font tourner ces entreprises devraient avoir leur mot à dire parce que eux ils raisonnent en tant que salariés, en tant que travailleurs, mais aussi en tant que justement citoyens qui est soucieux de l'avenir. Et eux, je suis convaincue que si on demandait aux salariés de comment ils travaillent, ils feraient pas l'obsolescence programmée, par exemple. Et dans les choix de produire des engins de mort, par exemple, ou des choses utiles à la population, ils choisiraient plutôt la deuxième option. Donc je crois qu'effectivement, la question, c'est de contester le fait qu'une poignée puisse dominer comme ça une économie et prendre des choix qui engagent toute la société, l'humanité et la planète.
Quand on entend Nathalie Arthaud, et c'est plutôt intéressant.
Mais les travailleurs, c'est pas des pions. Ils ont besoin de vivre tous les jours. Ils ont besoin d'un salaire tous les jours. Ils ont besoin de payer leur loyer.
C'est pas des pions, c'est pour ça que les pions qui étaient non communistes n'ont pas marché.
Ceux qui toujours subissent ces transitions, il y en a marre. Il faut effectivement que ceux qui sont responsables, qui tiennent justement les manettes, et bien qu'ils assument toute leur transition et leur choix.
On écoutera demain Édouard Philippe, du coup, pour voir quelle est la réponse du Premier ministre et du gouvernement à toutes ces questions qui sont pas simples, mais qui sont passionnantes. Merci à tous les quatre d'être venus ce matin sur le plateau du Live BFM. Le temps.